Alone.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciats et bienvenue dans votre émission Page à Page, où nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur les ondes de Radio Occitania. Alors aujourd'hui, j'ai invité, en invité absent bien sûr, vous comprendrez pourquoi, la reine française du polar. Voilà, elle est fort connue, elle a écrit plus d'une dizaine de romans, dont 10 romans policiers. Elle a écrit son 10e l'année dernière, elle a publié son 10e l'année dernière. Elle fait beaucoup de fouilles et ses romans s'en imprègnent beaucoup. Et puis, le 24 janvier est sortie une adaptation au cinéma d'un de ses romans. Donc, si je vous dis tout ça, vous avez deviné. Ceux qui ne connaissent pas, ben, il faut la connaître. Et ceux qui la connaissent déjà, ils l'ont reconnue. C'est Fred Vargas. Alors voilà, je vais faire une émission, donc, en son honneur. Et puis, je vous lirai un passage de son dernier livre qui s'intitule Dans les bois éternels, qui est sorti, donc, qui a été publié l'année dernière au mois de mai 2006. Mais comme à l'accoutumée, on va commencer par quelques petites infos autour du livre. Alors, j'étais à la conférence de presse du Marathon des mots, vous savez, cette manifestation qui a lieu pour la troisième fois cette année à Toulouse et qui aura lieu du 14 juin au 17 juin. Alors, cette année, beaucoup d'invités, de personnages connus. Londres est la ville à l'honneur cette année. L'année dernière, c'était Barcelone. Cette année, c'est Londres. Et il y aura des grands invités comme Jane Birkin, Charlotte Rampling, hein, pour illustrer cette ville de Londres. Et puis, comme invité absent, il y aura Julien Gracq, qui n'est pas décédé, mais qui sera absent, puisqu'il ne viendra pas, mais voilà, il sera à l'honneur. Il y aura Philippe Solers. Il y aura aussi, donc, la marraine cette année, je vous en avais parlé la semaine dernière, donc je vous avais réservé la surprise. Normalement, ça sera voilà Nicole Garcia. Et puis, il y aura un marathon jeunesse du 23 au 27 avril, hein, à l'honneur avec des auteurs jeunesse, et que ça aura lieu aux abattoirs, et donc pour les plus jeunes. Et puis, pour la musique, avec des textes lus, l'année dernière, il y avait Lavillier, il y avait Higelin. Cette année, entre autres, il y aura Kali, pour les adeptes de Kali, voilà, qui a répondu présent assez rapidement pour le marathon des mots. Et puis, un événement événement unique au niveau musical, une lecture symphonique avec l'orchestre du Capitole. Voilà, ça sera le jour de la clôture, le dimanche 17 juin. Donc, je vous en reparlerai, mais voilà, je voulais vous donner un petit peu un aperçu de ce qui se fera au mois de juin et on en reparlera. J'inviterai d'ailleurs Gauthier Morax, comme les deux autres années. Mais là, il était à Londres, donc je n'ai pas pu le voir à la conférence de presse. Alors ensuite, la rencontre à la librairie Ellipse ce samedi le 3 février avec Jean-Jacques Velasco, c'est à 15h pour son dernier livre « Troubles dans le ciel ». Donc comme je vous l'avais dit la dernière fois, c'est pour les amateurs d'OVNI, mais pas que pour eux hein, d'ailleurs. Et c'est la librairie Ellipse se situe 251 route de Narbonne. Et pour tout renseignement, un numéro de téléphone 05 61 55 49 67, 05 61 55 49 67. Alors je continue avec un atelier d'écriture animé par Marie Carré. Ça se situe à la bibliothèque Cervérol, c'est 10 rue Charles Garnier, et c'est le mercredi c'est le mercredi 7 février et c'est pour les enfants à partir de 8 ans et c'est de 15h à 17h. Alors c'est un atelier donc d'écriture comme je vous le disais. Alors collectionneur d'instants, éclateuse de rire, sauveur d'âme, venez découvrir et inventer de drôles de métiers imaginaires dans l'atelier d'écriture animé donc par Marie Carré. Donc c'est sur inscription à la bibliothèque donc Cervérol, 10 rue Charles Garnier. Je vous donne le téléphone 05 61 20 35 94 05 61 20 35 94. Et puis je continue avec encore le mercredi 7 février, mais à la bibliothèque cette fois-ci Saint-Exupéry. Et oui, il s'en passe des choses à Toulouse dans les bibliothèques. Donc mercredi 7 février à la bibliothèque Saint-Exupéry, c'est à 10h30. Alors c'est les bébés bouquines, donc les tout-petits de 1 an à 3 ans, sont invités à la bibliothèque à partager un moment de lecture tendresse au beau milieu des livres. Un mercredi, donc c'est un mercredi par mois, donc c'est mercredi 7 février pour le mois de février. Et c'est à 10h30. La bibliothèque Saint-Exupéry se situe 37 rue du Lot. Et le numéro de téléphone, 05 61 26 12. Non, c'est pas celui-là le numéro. Je me suis trompée. Pardon. Alors, le numéro de la bibliothèque Saint-Exupéry, c'est 05 62 87 99 68, 05, 62, 87, 99, 68, donc c'est 37 rue du Lot. Et puis à la bibliothèque du Faubourg Bonnefoy, la bibliothèque Bonnefoy, mardi 6 février, là c'est une lecture d'histoire pour les tout-petits de 1 an à 3 ans, et c'est à 10h et à 10h30, c'est sur inscription également, je vous donne l'adresse, donc bibliothèque Bonnefoy, 4 rue du Faubourg Bonnefoy, et là je vous donne le bon numéro, c'est 05 61 26 12 72 05 61 26 12 72. Et puis on continue avec la librairie Priva le mercredi 7 février. Alors là, ce mercredi 7 février, il s'en passe énormément de choses à Toulouse. Donc la librairie Priva, c'est 14 rue des Arts. Le mercredi 7 février, c'est à 18h et c'est une rencontre avec Jean-Christophe Ruffin pour son dernier livre « Le parfum d'Adam » qui est publié aux éditions Flammarion. Alors l'auteur, on le connaît, il avait obtenu le prix Goncourt pour Rouge Brésil et il est aussi l'auteur de L'Abyssin. Et puis donc dans son dernier roman, c'est un thriller avec tous les ingrédients nécessaires pour un bon thriller. C'est un monde surpeuplé, une épidémie en germe, une héroïne en herbe et une agence de renseignement privé, Providence. Voilà, donc si vous voulez venir rencontrer cet auteur, c'est mercredi prochain 7 février à 18h au salon Priva. Et puis je vais presque terminer avec une lecture à la bibliothèque de Naïoux, pour ceux qui habitent par là, une lecture du dernier livre de Julien Campredon, je vous en ai déjà parlé, Brûlons tous ces punks pour l'amour des elfes, et donc ça aura lieu le jeudi 8 février, donc jeudi prochain à 20h30, donc à la bibliothèque de Naïoux. J'inviterai cet auteur très prochainement, vous verrez, donc si vous avez l'occasion d'habiter par là-bas, n'hésitez pas à aller le rencontrer, à écouter ses textes, c'est vraiment très amusant. Et puis je termine avec la bibliothèque Saint-Exupéry, donc 37 rue du Lot, et jusqu'au samedi 10 février, une exposition « Pirates et brigands » conçue par Bodoni et destinée aux enfants, et qui permet d'aborder le monde des pirates par des textes clairs et illustrés, leur réalité historique bien sûr, mais aussi leurs navires, leurs armes, l'équipage, le pillage, et on n'oublie pas bien sûr le trésor. Donc à l'abordage jusqu'au 10 février, et c'est 37 rue du Lot à la bibliothèque Saint-Exupéry. Je vous ai donné le numéro tout à l'heure, je vous le redonne, 05 62 87 99 68.
Page à page, Claire Ambille.
Voilà, alors les infos d'aujourd'hui, c'est terminé. Donc on va passer donc à notre invitée absente, donc Fred Vargas, cette héroïne, enfin cette la reine du française du polar. Donc qui est donc qui dit pour construire un polar, en fait, elle recherche avant tout le son des mots. Après viennent les personnages et en dernier lieu seulement l'intrigue policière. Voilà comment elle fonctionne, Fred Vargas. Alors un petit peu d'histoire sur cette femme. Donc Fred Vargas donc est né à Paris en 1957 d'une mère scientifique et d'un père intellectuel. Véritable encyclopédie humaniste, comme elle se plaît à le décrire. Alors d'ailleurs, ça se retrouve, hein, mère scientifique, ça se retrouve dans tous ses romans policiers d'ailleurs. Il y a beaucoup de références à la science. Alors Fred, bien sûr, c'est le diminutif de Frédéric. Voilà. Ensuite, Vargas, c'est son nom de plume pour les romans policiers. C'est un pseudonyme emprunté au nom d'artiste peintre de sa sœur jumelle Jo, choisi en référence à Maria Vargas, rôle tenu par Ava Gardner dans La Comtesse aux pieds nus. Voilà. Alors Jo est sa première lectrice et elle tente d'effacer les doutes qui assaillent parfois sa sœur. Alors Fred est passionné par les fouilles depuis sa plus tendre enfance. Ça se retrouve de toute façon aussi dans ses romans policiers avec ses personnages. Et Fred donc passe son bac et se lance dans des études d'histoire. Elle s'intéresse à la préhistoire, puis choisit de concentrer ses efforts sur le Moyen-Âge. Elle devient archéologue médiévale. Alors la personnalité et l'enseignement de son père ont tenu un rôle déterminant dans sa formation. Éprouvant le besoin de se trouver une autre occupation que son travail, elle s'essaye à l'accordéon, mais sans grand succès. Alors finalement, en 1986, elle publie son premier roman policier, ou Rompol, comme elle plaît, comme elle qualifie elle-même ses œuvres. En 1996, on décerne le premier prix du Festival de Cognac à son premier roman, Les Jeux de l'amour et de la mort, aux éditions du Masque. En 1992, elle rencontre la maison d'édition Viviane Ami, et qui deviendra son éditeur attitré, puisque bon, tous ses romans, ensuite, à partir de 1992, sont édités par la maison d'édition Viviane Ami. Alors une similitude est certaine entre sa profession de tous les jours, hein, puisqu'elle est archéologue, et le roman policier, l'empreinte et l'enquête. Et c'est au tour de ces personnages de fouiller et de gratter derrière l'apparence des choses. Donc dans ses polars, Fred Vargas recherche avant tout, comme je vous le disais, le son des mots. Elle dit elle-même « un livre, c'est aussi une construction musicale ». Elle dit ça pour justifier ses fantaisies verbales. Et puis elle compare le polar à une tragédie grecque. Il doit servir à mettre en scène le bien et le mal à partir du monde qui est le nôtre pour atténuer nos angoisses. Alors Fred Vargas vit à Paris, hein, dans la capitale. Elle a un petit garçon. Et je vais vous dire un petit peu sa bibliographie, le nom des livres qu'elle a écrit. Alors, Les Jeux de l'amour et de la mort, bien sûr, premier roman, donc, qui a été salué par le prix du Festival de Cognac. Ensuite, on a Ceux qui vont mourir te saluent. Voilà, donc déjà chez Viviane Ami, aux éditions Viviane Ami. Après, il y a Debout les morts. Alors là, Debout les morts, il a reçu le prix Mystère de la critique en 1996. Un peu plus loin sur la droite, encore un roman policier. Ensuite, L'homme au cercle bleu. Ensuite, Sans feu ni lieu. Ensuite, on a, voilà, j'ai la suite, L'homme à l'envers. Ah oui, je m'en souviens. En tout cas, je les ai tous lus, hein, donc si j'ai choisi Fred Vargas aujourd'hui, c'est parce que j'aime beaucoup et je les ai tous lus. Alors, L'homme à l'envers, donc il lui a reçu le grand prix du roman noir de Cognac en 2000. Ensuite, il y a Les Quatre Fleuves. Ensuite, c'est un peu particulier. Les Quatre Fleuves, c'est un livre qui a reçu le prix du meilleur scénario au Festival d'Angoulême en 2001. Ensuite, il y a Pars vite et reviens tard. Donc, qui a reçu le prix des libraires en 2002. Donc, c'est ce fameux livre, Pars vite et reviens tard, qui est adapté en ce moment donc au cinéma. Donc, vous pouvez aller voir dans les salles et dont le rôle principal est tenu par José Garcia. Alors, je ne dirai rien sur le film parce que je n'ai pas encore été le voir. Mais voilà, donc je vous en dirai plus si je vais le voir. Mais bon, moi, j'avais beaucoup aimé le livre. Après, le film, je ne sais pas comment il a été adapté. Ensuite, il y a un petit traité donc de toute vérité sur l'existence. C'est un essai où se mêlent la philosophie et l'humour, l'amour et le désamour, la guerre, la distraction, la politique. Et puis, il y a un recueil de nouvelles qui s'appelle « Coule la Seine ». C'est un recueil de 3 nouvelles où on retrouve bien le style de Fred Vargas. Et puis, son avant-dernier « Sous le vent de Neptune », qui date de 2004, qui se passe au Canada. Et puis le dernier, donc, Dans les bois éternels, qui date de 2006. Et puis, il y a aussi un petit livre qu'elle a écrit sur la vérité sur Cesare Battisti, hein, puisque c'est quelqu'un qu'elle apprécie, qu'elle affectionne particulièrement. Donc voilà, elle a écrit sur Cesare Battisti. Alors, tous les romans donc de Fred Vargas sont traduits ou sont en cours de traduction dans plus de 30 pays. Et ils ont reçu nombre de récompenses, hein, comme je vous l'ai dit, françaises et étrangères, dont le prix des libraires pour Par vite et revient tard, et ou encore donc le prix mystère de la critique pour Debout les morts. Donc ces personnages, pour ceux qui ne les connaissent pas encore, c'est Adamsberg, le commissaire un peu rêveur, et son fidèle Danglars, qui aime bien, qui est un peu porté sur la bouteille, mais qui est très attachant et qui est très perspicace. Et puis il y a Camille, la jeune femme insaisissable, avec voilà ses rapports assez particuliers avec Adamsberg. Et puis il y a la série donc des trois jeunes, Marc, Mathias et Lucien. Donc Marc qui est plutôt médiévaliste, on va dire, Mathias le préhistorien et Lucien le poilu de la Première Guerre mondiale. Et puis il y a aussi l'allemand, Louis Kelveler, ou dit l'allemand. Alors tous ces personnages, ils se retrouvent dans plus ou moins tous ces romans policiers. Alors il y en a où il y a juste Adamsberg, et il y en a d'autres où il y a juste les trois jeunes là, Marc, Mathias et Lucien, et puis des fois Louis Kelveler. Et puis des fois il y a des livres, des romans où ils se retrouvent tous ensemble. Donc voilà, c'est ces personnages fétiches, voilà. Donc ils sont tous un peu déjantés, un peu particuliers, un peu très attachants tous en tout cas. Alors, dans l'avant-dernier, en 2004, Sous les vents de Neptune, l'action se passe au Canada. Et le célèbre donc commissaire Adamsberg est au cœur d'une intrigue où il est lui-même l'acteur et le suspect. Donc voilà, et donc et c'est dans ce livre-là qu'il apprend qu'il va être papa. Et oui, c'est dans Sous les vents de Neptune, donc dans l'avant-dernier. Et puis dans le dernier, dont je vais vous lire un passage en quelques instants, c'est Dans les bois éternels, donc de 2006. Donc c'est son dixième roman, hein, policier. Alors là, c'est un peu mystique, il y a des références religieuses, mais aussi bon, bien sûr, scientifique. Et puis, on y apprend des choses fort intéressantes sur les chats, les cerfs, mais aussi, bien sûr, sur l'âme humaine. Et c'est là où on voit aussi Adamsberg en papa qui raconte des histoires à son petit Tom. Donc, voilà, c'est un super livre. Voilà, son dernier roman. Donc, je vais pas vous faire patienter plus longtemps. Je vais carrément commencer... la lecture. Alors j'ai choisi de vous lire, j'ai choisi de vous lire le chapitre 33. 33, bon, c'est un bon chiffre. Et voilà, donc vous êtes vraiment au cœur du roman, donc Dans les bois éternels, aux éditions Viviane Ami, donc de Fred Vargas. Alors je commence. Je vais vous dire, c'est un peu particulier, donc ne vous fiez pas qu'à ça, c'est très particulier, c'est un peu mystique, un peu religieux, mais il est vraiment très prenant, et je vous assure qu'on ne trouve pas le coupable avant la dernière page, pratiquement, les trois dernières pages. Au vif des pucelles, dressées par trois, en quantité pareille, dit Adamsberg, par trois, nous devons prendre garde à cela. C'est le dosage, dit Mordant. Trois pincées d'os de Saint-Pilet, dans trois pincées d'os pénien, puis trois pincées de bois de la croix et trois du principe de la Vierge. Je ne crois pas, commandant. On a déjà deux Vierges déterrées. Quoi qu'on ait voulu y prélever, il semble qu'une seule aurait largement suffi pour y prendre trois pincées. De même, il aurait suffi d'écrire en quantité pareille, mais la recette précise par trois. Trois pincées, en effet. Non, trois pucelles, trois pincées de trois pucelles. Il ne faut pas chercher ce genre de logique, c'est à la fois une recette et une sorte de poème. Non, dit Adamsberg, ce n'est pas parce que le langage nous paraît compliqué qu'il est poétique. Ce n'est jamais qu'un vieux bouquin de recettes et rien d'autre. C'est exact, dit Danglars, bien qu'un peu choqué par la désinvolture avec laquelle Adamsberg traitait le De Relicis. C'est un simple traité de médication. Son but n'est pas d'être crypté, mais d'être compris. Eh bien, c'est raté, dit Justin. Pas tout à fait, dit Adamsberg. Il s'agit simplement de ne pas en manquer un mot. Dans cette mixture macabre, comme dans n'importe quelle recette de cuisine, chaque mot compte. Dressé par trois. Là est le danger. Là est notre boulot. Où ? Demanda Estaller. Avec la troisième vierge. Très possible, reconnut Danglars. On la recherche, dit Adamsberg. Où ? dit Mercadet en relevant la tête. Le lieutenant Mercadet prenait une foule de notes, comme chaque fois qu'il était bien réveillé et qu'il rattrapait alors ses carences par un zèle intensif. On cherche d'abord à savoir si une vierge de Haute-Normandie a été tuée récemment par accident apparent. « À combien estime-t-on la zone d'action du sein ?» demanda Rotencourt. « Le mieux serait de se caler sur un rayon de 50 km autour du Ménil-Beauchamp. » « 7 850 km², calcula rapidement Mercadet. « Quel serait l'âge de la victime ?»« Symboliquement, répondit Danglars, nous pourrions tabler sur un âge minimal de 25 ans. C'est l'âge de Sainte-Catherine, quand peut commencer une virginité adulte. On pourrait le borner à 40 ans. Au-delà, hommes et femmes étaient tenus pour des vieillards. « C'est trop large, dit Adamsberg. Il nous faut avancer plus vite. On serre en un premier temps autour de l'âge des deux victimes, entre 30 et 40 ans. Ce qui nous donnerait environ combien de femmes, Mercadet ? » On laissa le lieutenant Mercadet en silence, calculé en silence pendant quelques instants, entouré de ses tasses de café dressées par trois. « Dommage, se dit Adamsberg, que Mercadet s'endorme sans cesse. Il avait un cerveau remarquable, particulièrement pour les chiffres et les listes. » Très grossièrement, je dirais 120 à 250 femmes possiblement vierges. C'est encore trop, dit Adamsberg en tirant sa lèvre avec ses dents. Il faut restreindre le territoire. On cible sur un rayon de 20 km autour du Ménil. Qu'est-ce que cela donne ? 40 à 80 femmes, dit Mercadet prestement. Et comment va-t-on repérer ces 40 vierges ? Demanda sèchement Rotencourt. Ce n'est pas un délit inscrit au casier judiciaire. « Vierge !» se dit fugitivement le commissaire, en jetant un regard à sa grosse et jolie lieutenant. Rotencourt tenait sa vie au secret, hermétiquement protégée de toute inquisition. Ce colloque pointilleux sur les femmes intactes l'exaspérait peut-être. « On va consulter les curés, » dit Adamsberg. « Commencez par celui du Ménil. Faites vite, tous, en heures supplémentaires si nécessaire. » « Commissaire, dit Gardon, je ne crois pas qu'il y ait urgence. Pascaline et Elisabeth ont été tuées il y a trois mois et demi et quatre mois. La troisième vierge est sûrement déjà morte. »« Je ne pense pas, dit Adamsberg en levant son regard vers le plafond, à cause de ce vin nouveau qui est le liant final du mélange. Le vin dans lequel seront mélangés tous les ingrédients sera donc celui de novembre. Ou d'octobre, précisa Danglars. » On tirait le premier vin plutôt qu'aujourd'hui. Entendu, dit Mordant. Et ensuite, si l'on suit ce que nous dit Danglars, reprit Adamsberg, il faut respecter des équilibres harmonieux pour que le mélange soit réussi. Si j'avais à faire cette mixture, j'organiserais un échelonnement de temps régulier entre ces divers ingrédients, de sorte qu'il n'y ait pas de coupure trop longue, comme une course de relais, si vous voulez. « C'est même obligatoire, dit Danglars en rongeant son crayon. L'hétérogène, la rupture, est une hantise médiévale. Cela porte malheur. Quelle que soit la ligne, réelle ou abstraite, elle ne doit jamais être interrompue ou brisée. Pour toute chose, il faut suivre un développement continu et ordonné, en ligne droite et sans à-coups. » Or, reprit Adamsberg, le massacre du chat et le pillage des reliques ont eu lieu 3 mois avant la mort de Pascaline. Et les vifs des vierges ont été prélevés 3 mois après leur décès. 3, comme le nombre de pincées. 3, comme le nombre de vierges. 3, comme le temps d'une saison. Donc, le dernier vif sera récupéré 3 mois avant le vin nouveau. Juste avant. Et la vierge sera tuée 3 mois avant. Adamsberg s'interrompit et compta sur ses doigts plusieurs fois. Il est donc très probable que cette femme soit encore vivante, mais que son décès soit programmé à une date inconnue entre avril et juin. Nous sommes le 25 mars. Dans 3 mois, dans 15 jours ou dans 8 ? En silence, chacun estimait l'urgence et l'impossibilité de la tâche. car à supposer qu'on parvienne à établir une liste des femmes vierges dans le cercle tracé autour du Ménil, comment saurait-on celle que l'ange de la mort avait choisie ? Et comment la protégerait-on ? Ce n'est malgré tout qu'une vaste spéculation, dit Voisenet avec une secousse de tout son corps, comme s'il se réveillait après la fin d'un filin, cessant brusquement de croire à une fiction qui l'aurait emporté, comme tout le reste. Rien d'autre, dit Adamsberg. Un battement d'ailes entre ciel et terre, pensa Danglars, inquiet. Alors après, je continue, hein, puisque je suis sur ma lancée et qu'il reste du temps, et puis je suis sûre que voilà, vous avez envie de savoir la suite. Chapitre 34. La longueur du colloque avait retardé Adamsberg, il dut prendre sa voiture pour rejoindre l'atelier de Camille. Il ne raconterait pas à Tom l'histoire de l'infirmière et de l'épouvantable mixture. La vie éternelle, songea-t-il en se garant sous la pluie. La toute-puissance, la recette de deux reliquis, paraissait risible, une véritable blague, mais une blague qui enfiévrait l'humanité entière depuis ses premiers pas, dans ce néant cosmique qui affolait tant Danglars. Une blague tueuse pour laquelle les hommes avaient édifié leurs croyances et s'entretuaient sans relâche. L'infirmière n'avait rien cherché d'autre, au fond, durant toute sa vie. Avoir choix de vie ou de mort sur les êtres, disposer des existences à son gré, c'était déjà être déesse et tisser la toile des destins. À présent, elle s'occupait du sien. Elle qui avait régné sur les vies des autres ne pouvait pas laisser la mort la rattraper vulgairement, comme une vieille femme ordinaire. Son immense pouvoir de vie et de mort, elle allait en user pour elle-même, conquérant la puissance des immortels, rejoignant son véritable trône, d'où elle poursuivrait son œuvre fatale. Elle avait atteint 75 ans. C'était l'heure, après que le cycle de jeunesse avait passé 5 fois. C'était l'heure et elle le savait depuis toujours. Ses victimes étaient prévues de très longue date, les temps et les modalités d'exécution déjà réglés dans leurs moindres détails. La femme était méticuleuse, le plan s'exécutait pas à pas sans hasard. Ce n'était pas des mois d'avance qu'elle avait sur les flics, mais sûrement 10 ou 15 années. La troisième vierge était condamnée d'avance et il ne voyait pas comment lui, Adamsberg, avec ses 27 agents et même avec 100, pourrait contenir l'avancée si certaine de l'ombre. Non, il raconterait à Tom la suite de l'histoire du bouquetin. Adamsberg grimpa les 7 étages et sonna avec 10 minutes de retard. « Si tu y penses, mets-lui des gouttes dans le nez, » dit Camille en lui tendant un flacon. « Bien sûr que j'y pense, » dit Adamsberg en fourrant le flacon dans sa poche. « Va, joue bien. » « Oui. » Élémentaire conversation de camarade. Adamsberg cala Tom sur son ventre et s'allongea sur le lit. « Tu te souviens où nous en étions ? Tu te rappelles ce bouquetin gentil qui aimait beaucoup les oiseaux, mais qui ne voulait pas que l'autre bouquetin, roux, vienne l'agacer sur son bout de montagne ?» Eh bien, il est venu quand même. Il s'est approché et ses grandes cornes balayaient l'espace. Et il a dit « Toi, tu m'as emmerdé quand j'étais môme et tu vas le regretter, mon gars. » Ce sont des blagues, a répondu le bouquetin brun. Ce sont des histoires pour les gosses. Rentre donc chez toi et laisse-moi en paix. Mais le bouquetin roux ne voulait rien savoir car il était venu de très loin pour se venger du bouquetin brun. Adamsberg fit une pause et l'enfant signala par un mouvement du pied qu'il ne dormait pas. Oui, alors voilà, ben je vous laisse découvrir la fin du livre, donc Dans les bois éternels aux éditions Viviane Ami, donc de Fred Vargas. On se retrouve la semaine prochaine. J'aurai comme invité Manu Kos, un écrivain toulousain d'adoption, auteur et donc traducteur, qui viendra nous présenter 2 de ses livres. Je vous souhaite une bonne semaine. Restez fidèles au programme de Radio Occitania. Adiciats.
Poupidou,